Vous écoutez, on lit pour vous.
Les effets de la grossesse sur le cerveau de la mère scrutés à la loupe. Un texte de Caroline Y. Johnson du Washington Post, paru le 17 septembre 2024 dans Le Devoir. Des scientifiques ont observé l'évolution cognitive d'une femme avant, pendant et après sa grossesse en utilisant l'imagerie médicale cérébrale de façon régulière pendant 3 ans pour révéler le portrait le plus détaillé à ce jour des changements cérébraux dynamiques qui se produisent au cours d'une grossesse. Les nouvelles données suggèrent que le phénomène du cerveau maternel pourrait être réel, mais que celui-ci n'a rien à voir avec l'idée répandue selon laquelle les jeunes mères deviennent embrouillées et distraites. Au contraire, les neuroscientifiques commencent tout juste à documenter la manière dont les hormones entraînent un ensemble complexe et chorégraphié de changements susceptibles de préparer et d'affiner le cerveau en vue de la parentalité. Lorsque la neuroscientifique Liz Krastil et son mari ont été prêts à fonder une famille, celle-ci n'a pas pu laisser passer l'occasion de s'étudier elle-même. Avec une équipe de collaborateurs qui ont également étudié le cerveau pendant la ménopause et le cycle menstruel, elle s'est glissée dans le tomodensitomètre 26 fois, avant, pendant et après sa grossesse, offrant une perspective sans précédent sur un événement transformateur de la biologie humaine longtemps négligé par la science. Des zones clés de son cortex, la couche externe ridée de son cerveau, se sont rétrécies et amincies et sont restées ainsi à long terme, tandis que les autoroutes qui relient les régions cérébrales se sont améliorées pendant la grossesse, puis sont revenus à leur niveau de base après la naissance de son fils. L'étude publiée lundi dans la revue Nature Neuroscience révèle à quel point le cerveau de Mme Krastil était malléable d'un mois à l'autre. L'expérience de la grossesse affecte la biologie, la cognition, la perception de soi et de sa place dans la société, et même le risque de déclin cérébral à un âge avancé, déclare par courriel Sharna Jamadar, neuroscientifique à l'Université Monash en Australie, qui n'a pas participé à l'étude. Malgré ces changements massifs qui se produisent pendant la grossesse, nous ne comprenons pas très bien quels sont exactement les changements qui se produisent dans le cerveau pendant cette période. Un projet élargi visant à obtenir des images du cerveau d'un plus grand nombre de femmes enceintes est déjà en cours, afin de valider l'universalité de ces changements et d'aider à élucider la question plus profonde de savoir comment les changements dans la structure du cerveau influencent le comportement ou la pensée. L'espoir est que de telles études puissent finalement aider à comprendre pourquoi certaines femmes développent une dépression postpartum ou comment la grossesse prépare le cerveau au vieillissement. Le cerveau maternel n'est pas ce que vous pensez. La grossesse est un élément essentiel de l'existence humaine, mais le cerveau maternel a été sous-étudié et demeure méconnu. La plupart des connaissances des chercheurs à son sujet proviennent d'observations faites avant et après la grossesse. Les résultats de la nouvelle étude correspondent à ce qui est déjà connu dans ce domaine de recherche. On a constaté une réduction généralisée et durable du volume de matière grise, où les cellules cérébrales sont concentrées et où les pensées, les sensations et les souvenirs s'enracinent. Ces changements se sont maintenus 2 ans après la naissance du fils de Mme Krastil et des changements similaires ont été documentés comme persistants à long terme dans d'autres études. Mais comme cette équipe a examiné le cerveau pendant la grossesse elle-même, elle a constaté quelque chose de nouveau. L'intégrité des connexions entre les régions du cerveau, la matière blanche, s'est renforcé pendant les premiers et deuxièmes trimestres, puis a régressé après la naissance. Un cerveau qui rétrécit peut sembler ne pas être une bonne chose, mais Susanna Carmona, neuroscientifique à l'Hôpital général universitaire Gregorio Marañón de Madrid, qui n'a pas participé à l'étude, a découvert que la diminution du volume de matière grise au cours de la grossesse peut être liée à des niveaux accrus d'attachement maternel, ce qui suggère que le cerveau s'adapte aux défis qui l'attendent. Emily Jacobs, neuroscientifique à l'Université de Californie à Santa Barbara et l'une des responsables de l'étude, compare ce processus à la création du chef-d'œuvre David de Michel-Ange. Vous commencez par un morceau de marbre brut et vous le sculptez. Ce taillage finit par révéler la beauté sous-jacente, image Madame Jacobs. Madame Krastil dit ne pas avoir expérimenté le phénomène du cerveau maternel. Elle a néanmoins pu quantifier avec précision l'ampleur exacte de la réduction de sa matière grise, environ 4%. Elle souligne que la plupart des nouvelles mères manquent de sommeil, ce qui pourrait jouer un rôle dans la manière dont les gens ont l'impression que leur cerveau fonctionne. Margaret McCarthy, neuro-endocrinologue à la faculté de médecine de l'Université du Maryland, affirme que, d'après ce que l'on sait du cerveau d'autres animaux pendant la grossesse, ces changements cérébraux représentent probablement un raffinement et non une perte. Chez les souris, les hormones déclenchent le remodelage des circuits du cerveau qui les rendent sensibles aux nouveau-nés, par exemple. Nous savons, grâce à la recherche animale, que les hormones de la grossesse modifient le cerveau afin de le préparer à la maternité, a déclaré Mme McCarthy. Un cerveau en constante évolution. Ces nouveaux travaux font partie d'une vague d'études qui démontrent à quel point le cerveau est malléable, ce que les neuroscientifiques appellent la plasticité. Il est facile de concevoir le cerveau comme un organe statique, mais la recherche a montré que sa capacité à changer et à s'adapter est essentielle à son fonctionnement. À l'adolescence, les cellules du cerveau sont élaguées pour améliorer son efficacité. Mais même à l'âge adulte, et même sur de courtes périodes, le cerveau change. L'une des responsables de la nouvelle étude, Laura Pritchett, chercheuse postdoctorale en psychiatrie à l'école de médecine Perelman de l'Université de Pennsylvanie, s'est soumise à un examen de tomodensitométrie tous les jours pendant un mois au cours de son cycle menstruel, révélant que les réseaux cérébraux sont remodelés en l'espace d'un mois. Et les femmes ne sont pas les seules concernées. Des chercheurs ont constaté que le cerveau des nouveaux pères se remodelait également après la naissance de leur enfant. Les hormones sexuelles fluctuent également au cours d'une journée, et lorsque les chercheurs ont fait des images du cerveau d'un homme à 7 heures et à 20 heures sur une période d'un mois, ils ont également constaté des changements rythmiques dans la connectivité cérébrale. Cependant, il se passe quelque chose de particulièrement intéressant pendant la grossesse, où l'ampleur des changements sur une courte période est particulièrement spectaculaire. Dans l'ensemble, ces résultats vont dans le sens d'une reconceptualisation de la maternité comme l'une des périodes où la neuroplasticité est la plus élevée dans la vie adulte, a déclaré Mme Carmona. C'était Les effets de la grossesse sur le cerveau de la mère scruté à la loupe, un texte de Caroline Y. Johnson du Washington Post, paru le 17 septembre 2024 dans Le Devoir.
S'enrichir avec la règle de 752. Un texte de Nicolas Bérubé, paru le 5 novembre 2023 dans La Presse. Il y a des concepts avec l'argent qu'on peut expliquer maladroitement des dizaines de fois, puis on découvre qu'une façon plus simple et intelligente d'en parler existe, et tout devient clair. C'est le cas avec la règle de 752, et je vais vous expliquer pourquoi. Les illuminés comme moi aiment dire aux gens d'investir leur argent plutôt que de le dépenser pour des achats non essentiels à leur bonheur sur Terre. Un café à 5 $, bu rapidement en répondant à des courriels. du Uber Eats à 68 $ pour deux, commandé un soir où le frigo est vide. Un forfait cellulaire à 125 $ par mois pour posséder le tout dernier iPhone. Bref, toutes sortes de dépenses sont souvent oubliées la minute d'après. Ou alors, vite intégrées à un niveau normal de satisfaction de la vie, une fois passée l'excitation de la nouveauté, souvent au bout d'un mois ou deux. C'est toujours difficile d'expliquer pourquoi ces dépenses sont importantes, parce que les montants en jeu ne sont pas impressionnants. C'est ici qu'intervient la règle de 752. Que fait cette règle? Elle agit comme une paire de lunettes qui nous fait voir le vrai coût des choses. Pour connaître le prix qu'on paye réellement pour un objet ou un service, il suffit de prendre ce qu'il nous coûte par semaine et de le multiplier par 752. Le résultat est la somme qu'on aurait dans notre compte d'investissement au bout d'une décennie si cette somme avait plutôt été investie dans des actifs financiers et avait obtenu une croissance annuelle de 7%, soit un rendement inférieur à celui d'un portefeuille équilibré de fonds indiciels 60% actions, 40% obligations, 8,5% par année en moyenne depuis 50 ans. Pour des dépenses mensuelles, multipliez plutôt par 173. Imaginons un exemple. Joséphine est ingénieure, elle travaille fort et gagne bien sa vie. Elle n'a pas l'habitude de se faire de lunch. Elle dépense environ 20 $ par jour pour un lunch à emporter le midi et 5 $ pour un café près du travail, ce qui fait 125 $ par semaine. Joséphine sait qu'elle pourrait conduire un petit véhicule d'occasion ou parfois prendre le vélo ou les transports en commun. Mais elle a opté pour un VUS neuf pour ne pas tomber en panne et parce qu'elle est rendue là dans la vie. En incluant les frais d'intérêt et les taxes, elle remet 390 $ toutes les deux semaines à la banque pour ce privilège, ce qui fait 195 $ par semaine. Sa garde-robe commence à dater, donc elle dépense en moyenne 150 $ par mois, 35 $ par semaine, pour quelques nouveaux vêtements. Posséder le tout dernier iPhone et un forfait riche en données à 125 $ par mois, 29 $ par semaine, sont des dépenses qu'elle est prête à assumer. Train de vie normal. Pour une professionnelle en milieu de carrière, il n'y a rien de scandaleux ici. Les quatre dépenses que je viens de décrire coûtent 384 $ par semaine. Mais le vrai coût est bien différent. Multiplié par 752, cela donne près de 290 000 $ par décennie. S'il est maintenu de l'âge de 30 ans à l'âge de 65 ans, ce train de vie complètement banal pour des dizaines de milliers de Québécois aura en fait coûté 3 000 000 $. Qu'est-ce que Joséphine pourrait faire avec 290 000 $ au bout de 10 ans? Elle pourrait payer comptant pour un véhicule ou en offrir un à un proche mal pris financièrement. Prendre une année sabbatique. Voyager. Vivre une récession ou une perte d'emploi sans stress alors que tout le monde au bureau panique. Ou alors, choisir de rembourser son hypothèque et de ne plus jamais devoir 1 $ à qui que ce soit parce qu'elle est rendue là dans la vie. Même personne. Même emploi. Deux parcours différents. La plupart des gens pensent qu'il faut être médecin spécialiste ou propriétaire d'une entreprise de construction pour s'enrichir, ou alors qu'il faut toucher un gros boni de fin d'année ou ne pas avoir d'enfant. Peu de gens réalisent que des choses comme des petits paquets d'Aridia ou d'Amazon, un VUS neuf, un forfait cellulaire et des paninis pas super bons achetés près du bureau ont des coûts qui dépassent le $1 000 000 assez rapidement dans une carrière. Et pas besoin d'avoir un train de vie élevé pour utiliser la règle de 752. Acheter 5 cafés par semaine coûte 25 $. Faire son café à la maison coûte moins de 5 $. Au bout de 10 ans, la différence, 20 $ par semaine multipliée par 752, aura réellement coûté $15 040. Je ne dis pas de ne pas acheter de café. Je dis que la question se pose. Qu'est-ce qui vous rendrait plus heureux? Boire des cafés dans un gobelet ou découvrir $15 000 dans la poche de votre manteau toutes les décennies? Pour être 100% clair, les achats que je viens de mentionner ne sont pas les causes de notre inhabilité à nous enrichir, mais ils en sont souvent les symptômes. On peut tout à fait s'enrichir en faisant ses dépenses, mais il faut alors gagner un salaire très, très élevé et en mettre une portion importante de côté. Pour la majorité d'entre nous, mieux planifier nos dépenses est la façon la plus directe d'augmenter notre épargne et notre indépendance, peu importe notre niveau de revenu. C'était « S'enrichir avec la règle de 752 », un texte de Nicolas Bérubé, paru le 5 novembre 2023 dans La Presse.
Les femmes votaient pour la première fois il y a 80 ans en France. Un texte de Martine Jacquot, paru le 8 mai 2025 dans Le Courrier de la Nouvelle-Écosse. Au lendemain des élections qui ont amené Mark Carney au pouvoir, on peut réfléchir à l'histoire de l'obtention du droit de vote pour les femmes. Au Canada, ce ne s'est pas fait de manière uniforme. En Nouvelle-Écosse, les femmes qui servaient dans l'armée ou avaient un proche au front ont obtenu le droit de vote en 1917. C'est le premier ministre Robert Borden, originaire de Grand Pré, qui leur a accordé ce droit, car il avait besoin du vote des femmes. Ce n'est qu'en 1918 que la plupart des femmes au pays ont enfin obtenu le droit de voter aux élections fédérales. En France, c'est le 29 avril 1945 que les femmes ont voté pour la première fois. Il y a donc 80 ans seulement que les Françaises se sentent citoyennes à part entière. L'histoire de l'obtention de ce droit fut longue. Remontons à la Révolution française. Olympe de Gouges a écrit « La Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne » en 1791, en réaction à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Elle y a écrit que « si la femme a le droit de monte à l'échafaud, elle doit avoir le droit de monte à la tribune ». Longtemps, les femmes ont combattu pour s'extraire du Code Napoléon, qui les considérait comme des mineurs juridiques au même titre que les criminels, les malades mentaux et les enfants, et les maintenait sous l'autorité de leur mari, père ou frère. Les suffragettes ont commencé à se battre en 1848 pour l'obtention du droit de vote. Plusieurs générations de femmes ont travaillé avec acharnement à cette cause. Mais la réaction des hommes a toujours été brutale et condescendante. Elles ont été nombreuses à mener la lutte. Hubertine Auclair a fondé en 1876 la Société Le Droit des Femmes, qui est devenue la Société pour le suffrage des femmes. En 1881, elle a créé le journal La Citoyenne pour défendre l'égalité politique entre les sexes. En signe de protestation, elle a refusé de payer ses impôts, disant que les femmes qui subissent les lois et paient les impôts, ainsi que les hommes, doivent avoir, comme eux, le droit de voter. « Je n'ai pas de droit, donc je n'ai pas de charge. Je ne vote pas, je ne paie pas. » À la fin du 19e siècle, Louise Weiss a fondé l'association La Femme Nouvelle, et elle a participé à la structuration du mouvement en faveur du suffrage féminin. Avant la Seconde Guerre mondiale, Les propositions pour accorder le droit de vote aux femmes n'ont jamais été adoptées par le Parlement. Mais sous l'occupation, plusieurs milliers de résistantes ont fait entendre leur voix. Nombreuses ont été envoyées en camp de concentration et n'en sont jamais sorties. Les hommes ont été obligés de reconnaître le rôle indispensable que les femmes ont joué pendant le conflit. Le général de Gaulle, depuis Alger, a enfin accordé le droit de vote aux femmes en 1944, avec un siècle de retard sur les hommes, et elles ont pu exercer ce droit dans un vote municipal juste avant la fin de la guerre, peu avant le 8 mai 1945. Elle savait qu'elle devrait rester vigilante, car tout est volatile. Une crise politique ou religieuse peut tout remettre en question à n'importe quel moment. Les droits des femmes ne sont jamais totalement acquis. Par exemple, le roi d'Afghanistan a donné le droit de vote aux femmes en 1919. De nos jours, les droits des femmes sont détruits et elles n'ont même plus le droit de parler en public. Comme quoi, tout peut être anéanti du jour au lendemain. Au fil des ans, la cause des femmes en France a lentement avancé, avec le droit à l'IVG, avec la loi Veil en 1974. Ce n'est que dans les années 2000 que la parité est finalement inscrite dans la loi. Une progression d'escargot. N'oublions pas qu'en France, il n'y a que 50 ans que les femmes mariées peuvent ouvrir un compte bancaire et signer un contrat de travail sans l'autorisation de leur mari, un an après le Québec. C'était « Les femmes votaient pour la première fois il y a 80 ans en France ». Un texte de Martine Jacquot, paru le 8 mai 2025 dans « Le courrier de la Nouvelle-Écosse ».
Un nouvel appel à projet pour le Fonds Laurent McCutcheon. Un texte d'André Constantin Passiour, paru le 4 mai 2025 dans le magazine Fugue. Le Fonds Laurent McCutcheon, FLM, lance son deuxième appel à projet destiné aux communautés LGBTQ+. Une subvention de 5 000 $ sera attribuée aux projets sélectionnés, conformément aux critères établis par le comité consultatif du FLM. Les groupes et organismes intéressés ont jusqu'au 2 juin 2025 pour soumettre leurs propositions. Dans un contexte marqué par la polarisation sociale et la montée des discours haineux, ce fonds vise à soutenir les organismes communautaires LGBTQ+ et à promouvoir l'équité, l'inclusion et la diversité. Les communautés LGBTQ+ sont confrontées à des obstacles qui les empêchent souvent de s'investir pleinement au sein de notre société. Voilà pourquoi il est important de soutenir des projets qui permettront, par exemple, d'offrir des services ciblés ou encore des programmes d'éducation à l'intention des communautés LGBTQ+, souligne le communiqué de presse. Appuyer ce type de projet, c'est favoriser l'équité et l'inclusion en valorisant les différences. Ce fonds, administré par la Fondation du Grand Montréal, a été créé il y a 10 ans à l'initiative de Laurent McCutcheon, un pionnier de la défense des droits LGBTQ+ au Québec. Il continue aujourd'hui d'honorer son héritage grâce à l'engagement de son comité consultatif. Laurent était un mentor pour plusieurs. La société évolue et nous devons toujours rester vigilants. Ce n'est pas parce qu'un droit existe aujourd'hui que nous l'aurons encore demain, rappelle Adam Lukowski, qui est membre du comité consultatif. Quels types de projets peuvent être financés? Les projets admissibles peuvent inclure des services ciblés pour des sous-groupes des communautés LGBTQ+, des actions d'éducation ou de sensibilisation du public, des initiatives de défense des droits, incluant des démarches juridiques ou de vulgarisation, des projets artistiques mettant en valeur les personnes LGBTQ+, des projets liés à l'histoire et l'héritage, visant à préserver ou commémorer le passé. Retour sur l'appel de projet 2024. L'an dernier, le projet retenu fut celui de Jeunesse Lambda, intitulé « Jeunesse Lambda, quatre décennies de café, de conviction et de communautaire ». Grâce à la subvention, l'organisme a pu documenter son histoire à travers un livre commémoratif, contribuant ainsi à la préservation de la mémoire collective des communautés LGBTQ+. Un engagement durable. Le comité consultatif du Fonds réunit des figures engagées comme Pierre Sheridan, conjoint de Laurent McCutcheon, France McCutcheon, Adam Lukowski, Martine Roy, Mona Greenbaum et plusieurs autres. Ensemble, ils veillent à poursuivre le travail amorcé par Laurent avec le soutien de la Fondation du Grand Montréal. La Fondation du Grand Montréal est fière de soutenir les actions du Fonds Laurent McCutcheon, affirme Karel Méran, le président-directeur général de la Fondation. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas la Fondation du Grand Montréal, celle-ci gère des dizaines et des dizaines de fonds aux missions variées, allant de la musique nomade, artistes autochtones, au fonds littératie, qui appuie la littérature québécoise, au fonds vital d'aide aux réfugiés ou encore la Chamandy Foundation Fund, venant en aide aux enfants pauvres, entre autres. Faites partie du changement. Dans un monde où les droits peuvent être remis en question du jour au lendemain, soutenir les communautés LGBTQ+ n'a jamais été aussi crucial. Que vous soyez un organisme ayant un projet porteur ou un citoyen ou une citoyenne désireuse d'appuyer cette cause, le Fonds Laurent McCutcheon a besoin de vous. Donc, déposez votre projet avant le 2 juin 2025. Contribuez à la campagne de financement du FLM pour assurer la pérennité de son action. Comme le rappelle Pierre Sheridan, grâce à l'expertise du comité consultatif et au soutien de la Fondation du Grand Montréal, la mission de ce fonds est entre bonnes mains. Merci à tous ceux et celles qui soutiennent son développement par leur générosité. Info, site web du Fonds Laurent McCutcheon, flmfgm.org. C'était un nouvel appel à projet pour le Fonds Laurent McCutcheon. Un texte d'André Constantin Passiour, paru le 4 mai 2025 dans le magazine Fugue.